BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée aux élections législatives 2024, dont le premier tour est prévu dimanche 30 juin. Nous recevons l'intégralité des candidats de la 9e circonscription et ce matin, je suis en compagnie de Rachid Zerouali pour le parti L'écologie au centre et dont la suppléante est Valérie Villette. Rachid Zerouali, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter, en tout cas, d'abord une première question pour démarrer. Qu'est-ce que vous avez pensé du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale le soir des élections? On était donc le 9 juin dernier.
Je pense qu'Emmanuel Macron n'avait plus le choix. En fin de compte, sa politique centrale était vraiment désastreuse. Avec la montée des extrémistes, il était dans l'obligation de la dissoudre. Et puis le résultat, on se retrouve sur une élection législative anticipée.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à ces élections?
Je me suis déjà présenté en 2022. Je voulais me représenter pour affirmer ma candidature, car j'ai fait un très mauvais score, étant donné que je n'avais pas d'étiquette en 2022. Je me suis présenté sans étiquette, et là, je me présente sous le parti Écologie au Centre.
Vous avez donc choisi de rallier l'Écologie au Centre?
Tout à fait. J'ai choisi de rallier l'Écologie au Centre, qui m'ont appelé pour me dire si je voulais représenter leur parti, et ça me convenait parfaitement parce que c'était vraiment c'est ni gauche ni droite et ça va vraiment au centre.
Donc vous êtes reconnu dans leurs valeurs. Dans vos propositions, vous avez la santé.
Oui, tout à fait. Donc la santé, au fait, depuis plusieurs années, coûte de plus en plus d'argent. En 2023, nous a coûté 300 milliards d'euros. Effectivement, il y avait le Covid, mais c'est pas tout. Donc, au fait, au lieu de voir ce qu'on peut rajouter sur les budgets supplémentaires, je pense qu'il y a trop de malades. On doit réapprendre à vivre. Comme une pub disait, donc les antibiotiques ne sont pas automatiques. Donc, je pense qu'en reprenant mieux à vivre, on peut faire beaucoup d'économies sur la santé.
Donc, vous aimeriez un changement sur le système de santé?
Tout à fait, exactement.
Un autre point important dans vos propositions, c'est l'économie circulaire.
Oui, l'économie circulaire, en fait, ça consiste à tout réparer, tout recycler. Ça crée de l'emploi, des liens sociaux et ça réduit les pollutions et ça augmente le pouvoir d'achat.
On a vu d'ailleurs que le pouvoir d'achat était une des premières préoccupations des Français. On s'est basé sur un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD qui est sorti le 6 juin dernier. Le pouvoir d'achat dans les préoccupations des Français arrive en tête des voix avec 39%.
Oui, tout à fait. Le pouvoir d'achat, au fait, aujourd'hui, nous avons 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on propose l'économie circulaire pour tout réparer, recycler, et ça crée beaucoup d'emplois et ça va relancer le pouvoir d'achat.
Si on se base toujours sur ce sondage, la seconde préoccupation des Français à 36%, on est sur l'immigration.
Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire l'immigration, en fait, sur le pouvoir d'achat. Moi personnellement ça n'a rien à voir, mais il faudrait voir le sujet à bras le corps. Donc au fait, personne n'a la science infuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une assemblée qui devrait être un lieu de débat et non un ring de boxe. Donc chacun doit s'exprimer, avoir plusieurs points de vue et au final en tirer le meilleur et pas le bien de à titre personnel.
D'ailleurs, sur le pouvoir d'achat, ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est augmenter les bas salaires.
Tout à fait. Augmenter les bas salaires et surtout, réduire les charges patronales. Parce que, au fait, d'augmenter les charges patronales, ça réduit l'emploi du coup, il y aura moins d'économies le pouvoir d'achat prend un coup, en fait.
Et vous êtes chef d'entreprise, donc ça, vous savez.
Tout à fait, je suis chef d'entreprise. On a peur d'embaucher parce que justement, on a ce côté charges qui sont exorbitantes et on n'a pas la possibilité d'augmenter les salaires parce que si on augmente les salaires, automatiquement les charges augmentent. Il faudrait augmenter les salaires et que les charges restent stables. Pas pour enrichir l'entreprise, mais c'est pour créer du pouvoir d'achat.
Justement, pour favoriser aussi les emplois, la formation est importante?
Oui, tout à fait. La formation est importante. Par exemple, l'année dernière, le gouvernement Macron a baissé la formation de 8 000 à 6 000 euros. Donc, il a retiré 2 000 euros. Donc, les conséquences de cette baisse, c'est que nos jeunes ne trouvent plus d'entreprise. Moi, personnellement, j'ai des jeunes qui viennent me dire, bon, je veux être formé, Mais le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens de les former. Avec 6 000 euros, c'est vrai que c'est 2 000, mais les 2 000 euros, les entreprises ont besoin pour former ces jeunes-là.
Oui, vous ne gagnez pas d'argent avec ça.
Tout à fait, on ne gagne pas de l'argent avec ça. Le fait de former des jeunes, on perd de l'argent.
Et vous manquez aujourd'hui de personnel?
Ah oui, tout à fait. Nous manquons beaucoup de personnel. Nous mettons en place des mesures concrètes sur le long terme. Donc, à titre indicatif, actuellement, je monte une société d'ascenseurs. J'ai demandé au Pôle emploi, anciennement Pôle emploi, qui est France Travail actuellement, de nous trouver du personnel. Ils nous répondent comme quoi il n'y a pas de personnel à qualifier. Donc, on envoie à la préfecture. Donc, la préfecture m'a donné des autorisations d'aller chercher du personnel à l'étranger. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris du personnel à l'étranger pour les faire travailler en France.
Si on reste sur la formation, on bascule forcément vers l'éducation. Quel est votre point de vue sur la partie éducative?
Sur la partie éducative, je pense qu'il faut favoriser l'égalité des chances, notamment mettre en soutien le soutien scolaire et surtout le décrochage, qui est l'une de mes priorités.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y en a trop?
Des décrochages, oui, ça dépend des régions en fait. Il y a des régions, comme vous savez, je suis au Sable-d'Olonne et je suis sur la région parisienne. Par exemple, mes enfants, ils sont scolarisés, une partie de mes enfants, ils sont scolarisés au Sable-d'Olonne. Ils ont beaucoup de plus de facilité. Il n'y a pas de prof d'absent, il n'y a pas de... Au fait, la région les aide à suivre une scolarité saine. Contrairement, par exemple, à la région parisienne où il y a toujours des absences et puis... des profs manquants, ce n'est pas le problème n'est pas les profs, mais surtout de l'éducation.
On sait que déjà 700 professeurs seront absents pour l'année prochaine, pour la rentrée 2024-2025. Qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Moi, je pense qu'il faudrait revenir sur la formation et embaucher des professeurs, les former surtout, parce qu'aujourd'hui, on a des professeurs, malheureusement, qui ne sont pas tout à fait formés et qui ne vont pas au but de leurs exigences.
Pour continuer aussi sur votre programme, on parle aussi de laïcité.
Oui, la laïcité est un socle commun qui préserve la liberté de chacun, le respect. Donc l'école, il ne devrait pas y avoir ni de religion, ni de signe distinctif. Donc je serais même favorable à l'uniforme à l'école.
On sait que plusieurs écoles vont d'ailleurs prochainement les tenter. C'était quelque chose voulu par le gouvernement?
Tout à fait. Ça, c'est une bonne chose, au fait, du gouvernement. Il ne faut pas critiquer ce que dit le gouvernement. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont un peu moins bien. Il faut rectifier et travailler ensemble pour aller dans le bon sens de la France.
Au niveau des autres préoccupations, la troisième va forcément vous parler puisque vous êtes faites partie de l'écologie au centre. C'est l'environnement à 31%. Est-ce que vous, ça vous parle forcément, je suppose, l'environnement?
Oui, l'environnement, ça me parle parfaitement. Et au fait, on est différent de Europe Écologie Les Verts qui prennent tout, qui pensent tout savoir. Concrètement, ils veulent ouvrir les frontières, recevoir tout le monde alors que c'est impossible. Donc je suis au pacte de l'immigration et de l'asile de la loi Darmanin.
Justement, des fois, les gens confondent, vous l'avez dit, entre...
Europe Écologie Les Verts et le centre et l'écologie au centre. En fait, on est complètement Europe Écologie Les Verts. Pardon, j'arrive plus à désigner leur nom. Au fait, ils sont plus à gauche et ils se sont mariés avec ils se sont couchés, excusez-moi du terme, avec la France Insoumise. Alors que nous, on est resté plus au centre et ni à gauche ni à droite.
Vous n'avez pas choisi de rallier justement un des gros pôles qui se sont formés, que ce soit le Front Populaire.
Pas du tout, parce que nous, moi personnellement et l'écologie au centre sont contre les extrémistes, en fait.
Au niveau des propositions, il y a la proposition la maison des semences. Qu'est-ce que c'est?
Donc la maison des semences, au fait, c'est prévoir à tous nos agriculteurs de créer leurs semences, de créer leurs semences et éviter d'acheter des semences à l'extérieur. Et pour avoir un grand stock de semences français.
En quoi c'est important ça pour vous?
C'est important parce qu'en fin de compte, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on mange. Parce que la semence permet de faire des fruits, des légumes, etc. Et on sait exactement que si c'est des semences françaises, donc 100% françaises, il y aura une meilleure qualité.
Aujourd'hui, il y a aussi la mise en place d'une charte. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez pour les agriculteurs, pour qu'ils aient ces stocks?
Tout simplement, donc une mise en charte pour appuyée par la région et le département pour avoir des stocks de semences qu'on achète à des semenciers français 100% Made in France.
Un autre de vos points importants, ça va être le logement.
Oui, tout à fait. Donc, le logement. Donc, je veux m'engager pour une véritable politique de logement destinée aux personnes avec des revenus modestes, aux jeunes travailleurs, aux étudiants et aux familles monoparentales. Donc, je voudrais supprimer les avantages des logements de fonction au sein de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a des hauts fonctionnaires qui ont des logements au centre de Paris qui coûtent une fortune à l'État. Et ce genre de logement, je pense qu'on devrait soit les vendre, soit les distribuer comme des citoyens lambda.
Vous parlez d'une convention équitable, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, rassembler les bailleurs privés par ville. Qu'est-ce que serait pour vous une convention équitable ?
Une convention équitable, c'est avoir les mêmes droits qu'un citoyen lambda, un Français lambda et un politique.
Vous voulez qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les deux ?
Voilà, une égalité entre les deux.
Au niveau justement des avantages, vous l'avez dit, supprimer aussi donc les logements HLM pour les politiques.
Oui, supprimer pas supprimer les logements HLM, mais surtout supprimer l'accès aux logements HLM pour les politiques, parce qu'ils en abusent. Voilà.
On va aussi parler de pouvoir d'achat. On en a bien sûr déjà un peu parlé. Pour vous, il y a une vraie précarité et vous dites d'ailleurs que ça vous semble intolérable. Qu'est-ce que vous envisagez de faire?
Oui, c'est intolérable parce qu'on est la 7e puissance mondiale, enfin je pense, car il y a 9 millions de personnes, 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté.
L'ISF a été supprimé.
L'ISF a été supprimé et je pense que les ultra-riches et les riches doivent payer de l'ISF. Ils gagnent de l'argent en France, donc ce qui est logique, ce qui est normal. Comme nous, on paye des impôts, donc eux, ils doivent payer à leur niveau.
Ça veut dire que vous aimeriez la réinstaurer ?
Ah bien sûr, tout à fait. C'est une richesse qu'il faut réinstaurer.
Vous parlez aussi d'un revenu citoyen mensuel pour les jeunes. Comment vous l'envisagez ?
Tout à fait. Donc en fait, c'est un pacte de solidarité des jeunes qui coûterait 500 euros, enfin qui rapporterait 500 euros aux jeunes. Mais en échange, ils devraient faire de l'intérêt général à 10 heures par semaine. On ne leur donne pas les 500 euros gratuitement en fait.
Un des points, on va revenir un peu plus sur le local. On le sait que ce qui touche les élus en ce moment, un peu moins les habitants, mais vraiment les élus sont au cœur de ce sujet, ça va être la ligne LNPN, la nouvelle ligne Paris-Normandie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, parce qu'en fin de compte, les électeurs sont contre. Donc, il faudrait juste la retracer et voir exactement par où elle passe et éventuellement discuter avec le réseau pour voir si on pouvait avoir des arrêts. C'est vrai qu'ils disent c'est Rouen-Paris en direct, mais je pense avoir des arrêts et puis discuter avec eux et pas tout nier en bloc et tout refuser en bloc.
Vous pensez qu'il y en a un peu à prendre et à laisser ?
Je pense, exactement. Il y en a à prendre et à laisser pour le développement du pays, pour le développement de la région.
Si vous n'êtes pas au deuxième tour, est-ce que vous donnerez des consignes de vote et si oui, lesquelles ?
Je pense que je vais réfléchir à ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché dans des concurrents et je verrai à ce moment-là.
En tout cas, vous donnerez probablement une consigne.
Tout à fait, oui.
Vous accompagnerez en tout cas les gens qui vous suivent. Rachid Zerwali, bien merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci beaucoup à vous.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à 18h. Vous pouvez la retrouver également en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast, élections législatives. Demain, nous retrouverons Laurent Morin, Bruno Millienne et Diana Badiop qui viendront nous présenter à leur tour leur programme pour cette 9e circonscription. À très vite sur BPM.
BPM, élections législatives 2024.